Pour ce journal, vous écoutez Le Plat de Résistance sur La Clé des Ondes. Aujourd'hui au programme, on reviendra sur les mobilisations pour le Sénégal qui ont lieu à Bordeaux. On écoutera également un entretien avec Pierre Larouturou, député européen du mouvement Nouvelle Donne, et une chronique écho réalisée par David en toute fin d'émission. Mais d'abord, c'est notre journal dans Le Plat de Résistance. Sur le bassin d'Arcachon, l'hôpital privé Wallerstein, situé à Arès, a été inondé dimanche matin. Suite à ça, les urgences ont été fermées, les interventions repoussées et 15 patients et patientes ont dû être mis en sécurité et transportés sur des brancards, selon des informations Sud-Ouest. Ces inondations, dues au grand coefficient de marée et au fort vent, ont entraîné des phénomènes de submersion sur les communes du bassin d'Arcachon. Le Cap Ferret a été reconnu en état de catastrophe naturelle depuis un arrêté interministériel du 30 janvier 2024. Plus de 10 ans de combat pour Alain Payet, père de l'ouvrier décédé le 5 décembre 2013 à Saint-Médard, dans l'incendie d'un réservoir de propergol. Le propergol est un carburant qui sert pour les fusées et les missiles balistiques. En 2013, Benjamin Payet, 25 ans à l'époque, était ouvrier de l'entreprise Héraclès, qui s'appelle aujourd'hui Safran Céramique. Il a été tué dans l'incendie d'un réservoir. Ce 13 février 2024, le deuxième procès de l'entreprise s'ouvre devant la cour d'appel de Bordeaux. Condamné pour homicide involontaire en première instance, l'entreprise Safran Céramique a fait appel de la décision. Le père de la victime, Alain Payet, était l'invité de France Bleu Gironde ce matin. Il raconte, je cite, « Le médecin m'a répondu très laconiquement, mais vous savez, il est brûlé à 90%, il n'a aucune chance de survie. Paf, vous prenez ça dans la figure instantanément. » Il ajoute que, je cite, « Je suis inépuisable pour deux raisons. Pour mon fils et pour ma femme, décédée il y a 2 ans, raconte Alain Payet. Elle était convaincue qu'un tel choc, surtout pour une mère, ne pouvait entraîner que des maladies graves. Je crois qu'elle a eu raison, finalement. Elle est partie avec une haine au cœur. Et moi, cette haine que je n'avais pas, je l'ai prise. Et c'est ce qui me motive pour combattre cette société. » Dimanche, les militants et militantes contre l'A69 ont été la cible des forces de l'ordre dans le Tarn. Selon des informations Sud-Ouest, la police a fait un usage massif de gaz lacrymogène pour le 3e jour d'affilée sur la commune de Seix. Les militants et les militantes occupaient une voie ferrée pour tenter d'empêcher la poursuite du chantier de l'A69. Des journalistes de l'AFP rapportent que des affrontements entre la police et une bonne centaine d'opposants à l'autoroute ont eu lieu. Et ce soir, à 20h, aura lieu la projection du film « Le balai libéré », un documentaire sur les femmes de ménage de l'Université catholique de Louvain dans les années 70, qui mettent leur patron à la porte et créent une coopérative de nettoyage. Ça se passe au cinéma de la Lanterne, au 151 boulevard Albert Ier, à Bègle. Et c'est une projection fortement recommandée par l'équipe de La Clé des Ondes. On écoute tout de suite un reportage sur les mobilisations de ce week-end pour le Sénégal au micro de Gérard.
Bonjour.
Bonjour. Alors moi je suis Jenna Bassar, je vis à Bordeaux. Je suis enseignante et je suis sénégalaise de naissance et sénégalaise de cœur aussi. Hein. Je suis engagée en politique pour le Sénégal et je suis la représentante du PASTEF, qui est le principal parti d'opposition, parti dissous, mais parti qui existe toujours. Hein. Nous, dans la diaspora, voilà, c'est un parti qui est très vivant, très dynamique. Et nous soutenons le président Ousmane Sonko, qui aujourd'hui est injustement emprisonné par le président Macky Sall pour l'empêcher d'être candidat à la présidentielle. Un candidat qui était très bien placé pour remporter, les élections présidentielles du 25 février.
Alors on est aujourd'hui sur la place de la Bourse, le samedi 10 février, et à l'occasion d'un rassemblement à Bordeaux, une semaine, jour pour jour, après le coup de force du président Macky Sall.
Tout à fait. Une semaine pour jour après le coup d'État constitutionnel du président Macky Sall, parce que nous disons que c'est un coup d'État constitutionnel, parce qu'il a violé la Constitution en fait en nous annonçant que les élections allaient être reportées la veille du démarrage de la campagne électorale, ce qui est complètement scandaleux.
Sur place, au Sénégal, c'est la colère, une colère qui ne retombe pas.
Oui, c'est vrai, c'est la colère. Et en fait, c'est une colère qui est saine parce que cela fait des mois, des années que le président Macky Sall viole les lois de notre pays. Il a fait une révision constitutionnelle en 2006 réduire le nombre de son mandat. Et suite à cette révision constitutionnelle, il a essayé un peu de tripatouiller ensuite la Constitution pour pouvoir se maintenir pour un troisième mandat. Et nous l'avons combattu sur ce plan-là au niveau local et au niveau international. Et c'est suite à la pression de la rue et la pression de tous les patriotes et de tous ceux qui étaient contre un troisième mandat qu'il a reculé. Et on pensait que toute cette histoire était derrière nous et normalement, nous devions aller vers des élections apaisées, transparentes. En tout cas, nous, de notre côté, nous étions en train de travailler pour cela. Et c'est avec une grande surprise que nous avons vu que le président Macky Sall est sorti justement pour dire que qu'il suspendait les élections sur aucune base légale. Aucune base légale. Et c'est pour ça que le peuple du Sénégal s'est mobilisé. Nos compatriotes sénégalais étaient nombreux hier à descendre dans la rue pour dire non. Et malheureusement, la répression étatique s'est exercée sur eux. Les gendarmes, les policiers sénégalais tirent des grenades lacrymogènes sur des manifestants qui sont désarmés et qui, avant de sortir dans la rue, disent clairement qu'ils sortent pour manifester pacifiquement. Et ils n'ont que comme réponse la répression. Donc quand même, on est dans une situation inédite. Ça veut dire que le peuple se fait voler son droit de vote, son droit de choisir sa destinée. Et en plus, on dit à ce peuple, ne sortez pas, vous n'avez pas le droit de manifester. C'est quand même inédit et inouï et nous ne pouvons pas l'accepter. Voilà ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui.
D'autant plus que pour vous, le PASTEF, votre candidat naturel est en prison.
Oui, absolument. Notre candidat naturel, donc le président Ousmane Sonko, qui est leader du parti PASTEF, est en prison. Et si vous avez un peu suivi les procès qu'on lui a collés à la peau, c'est des procès complètement politiques, faramineux, sur aucune base légale. Il était accusé de viol. Et à l'issue du procès, cette accusation de viol a disparu comme par enchantement pour arriver sur une accusation de corruption de la jeunesse, qui est quand même inédit. Demandez aux juristes, même les juristes étaient étonnés. Corruption de la jeunesse, ça ne veut rien dire. Donc on sait que tout était fait pour priver de liberté le président Ousmane Sonko, pour le mener en prison, pour qu'il ne soit pas candidat, parce que c'est un fait, il est populaire, il est aujourd'hui l'homme politique le plus populaire du Sénégal. Le président Macky Sall, après 12 ans de règne, a vu sa cote de popularité baisser d'année en année, les Sénégalais ne veulent plus de lui, et le projet politique par porter Ousmane Sonko est un projet politique qui est devenu très populaire, et le président Macky Sall devrait combattre Ousmane Sonko sur les idées politiques et non pas sur la répression étatique. C'est complètement inadmissible.
Et la diaspora sénégalaise, peut-être au-delà, la diaspora d'Afrique de l'Ouest, la diaspora des démocrates africains, et puis globalement tous les démocrates, ont réagi.
Mais oui, absolument, on réagit avec force. D'ailleurs, là, au moment où je vous parle, à Paris, il y a une grande manifestation qui se tient à Paris, et je peux vous dire qu'elle sera populaire, il y aura énormément de monde qui sortira à Paris aujourd'hui, c'est une marche, et elle va réussir. Et ici, à Bordeaux aussi, vous le voyez, nos compatriotes commencent à arriver, et il n'y a pas que des Sénégalais, il y a des Africains, des Français qui viennent nous rejoindre, parce que c'est un combat qui n'est pas le combat des Sénégalais, c'est un combat universel, en fait, c'est pour le droit des peuples à l'autodétermination, à la souveraineté. Et voilà, tout le monde se mobilise et ça va continuer. De toute façon, la diaspora s'est toujours mobilisée contre la gouvernance de Macky Sall. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a reculé pour le troisième mandat. Et là-dessus, nous n'allons pas reculer, nous allons continuer à nous mobiliser contre lui. Voilà.
Et la CEDEAO, est-ce qu'elle a pris position ou elle est muette?
Alors, la CEDEAO a pris position. La CEDEAO a d'abord essayer voilà de d'être du côté de président Macky Sall en négligeant ou en minimisant ce qui a été fait, pour ensuite, face à la fronde internationale, j'ai envie de dire, face aux condamnations multiples qui ont suivi l'acte de Macky Sall, la CEDEAO a rétropédalé pour sortir un deuxième communiqué pour dire que les élections devaient se tenir à date échue, c'est-à-dire que le calendrier électoral devait être rétabli, parce que la CEDEAO joue vraiment sa crédibilité. On a vu comment elle réagit agi. Parmi les membres de la CEDEAO, il y a des présidents qui se sont maintenus au pouvoir de la manière les plus contestables. Et donc Macky Sall, qui lui est le donneur de leçons, qui est l'un des présidents qui a le plus condamné ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Niger et ailleurs. Donc il ne peut pas aujourd'hui raisonnablement justifier ce que lui il a fait au Sénégal. Donc la CEDEAO a compris que là, le peu de crédibilité qui lui restait, là il fallait vraiment qu'elle... Donc elle est un peu revenue en rétropédalage, mais ce n'est pas assez. Parce que normalement, si le président Macky Sall continue, ce que devrait faire la CEDEAO, c'est aller vers des sanctions, puisqu'elle n'a pas hésité à le faire avec le Mali. Donc il faudrait vraiment...
Le Mali, le Burkina, le Niger,
absolument, vous le dites très justement. Donc il faudrait qu'elle soit conséquente, et donc la prochaine étape, c'est des sanctions contre le président Macky Sall.
Et la France dans tout ça ? Vous voyez un peu la main de Paris ?
Mais Paris, pour l'instant, est un peu amorphe. On n'entend pas trop Paris. Paris, je veux dire le président Macron, on n'entend pas trop l'État français. On a entendu l'Union européenne qui, elle, a condamné et a dit que le calendrier électoral devait être respecté. Mais Paris, je pense, est aujourd'hui dans une situation très inconfortable. Parce que récemment, le président Macron a adoubé le président Macky Sall comme étant un grand démocrate à qui il comptait offrir une sortie honorable après son retrait de l'État sénégalais, ce qui est complètement inadmissible parce que le président Macky Sall n'a jamais été un grand démocrate. Enfin, les faits sont là pour le prouver. Donc je pense qu'aujourd'hui, le président Macron, qui revendique une amitié assumée avec le président Macky Sall et ses réciproques, je pense que le président Macron devrait se prononcer, devrait nous dire s'il est d'accord avec ce que fait son ami Macky Sall ou pas, parce que la diaspora africaine observe ce que dit le président Macron. Il n'y a pas eu longtemps, je pense, il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, le président Macron avait appelé la diaspora africaine à un dialogue franc et les représentants de cette diaspora lui ont dit qu'il faudrait que l'on revoie la politique française, la politique africaine de la France. Voilà, que les Africains ne veulent plus un double langage ou le deux poids, deux mesures. Et je pense que le président Macron, justement, qui est un président jeune, qui peut comprendre ce discours-là, devrait réagir, devrait condamner son ami Macky Sall et devrait ordonner le rétablissement du calendrier électoral. Il n'y a pas d'autre discours possible.
Alors pour vous, la suite, ça va être quoi ?
Alors la suite, c'est continuer à se mobiliser, continuer à dire non, continuer à dire que le président Macky Sall ne peut pas se maintenir au pouvoir sans base légale. Il doit partir le 2 avril, c'est le dernier délai. Donc il faudrait que très rapidement, on puisse rétablir le calendrier électoral. Le vote était prévu pour le 25 février. Même si nous ne votons pas le 25 février, nous pouvons voter une semaine après, 2 semaines après. Mais il faudrait que l'on puisse voter avant la fin du délai de maintien du président Macky Sall au pouvoir, c'est-à-dire le 2 avril, qu'il puisse céder le pouvoir à son remplaçant et que le peuple du Sénégal puisse choisir son prochain président. C'est tout ce que nous disons.
Non au report des élections. Non au report des élections. Non au report des élections.
Merci à Gérard pour ce reportage sur les mobilisations de contestation contre la situation politique au Sénégal. On écoute à présent un entretien avec Pierre Larouturou qui nous parle de politique européenne. Pierre Larouturou, vous êtes député européen et vous êtes au mouvement Nouvelle Donne, mouvement engagé à la hauteur des enjeux face à l'urgence climatique et sociale. Donc vous étiez à Bordeaux car ce dimanche se tenait une manifestation contre un projet de puits pétroliers, de forage pétrolier sur le bassin d'Arcachon. Il y avait beaucoup de monde, environ 3000 personnes, dont des personnalités majeures de la lutte climatique, Greta Thunberg par exemple. Quels enjeux se sont cristallisés sur cette mobilisation qui s'est tenue hier au niveau européen et qui a démarré à Bordeaux ?
C'est juste incroyable aujourd'hui encore 2024 que des gens veuillent faire des nouveaux puits de pétrole. On voit que le dérèglement climatique s'aggrave et c'est très concret. Un copain qui est venu me chercher à la gare de Bordeaux-Saint-Jean m'a dit qu'une de ses amies, sa maman était hospitalisée pendant la nuit près du bassin d'Arcachon et que la clinique où elle devait aller était envahie par les eaux, que la salle où il y avait le scanner, il y avait 40 cm d'eau. Pourtant, c'est pas une grande tempête, mais avec le réchauffement climatique, on voit le niveau de l'océan qui monte. Il y a quelques semaines, j'étais dans le Pas-de-Calais, les paysans ont tout perdu. On a vu des paysans et depuis 3 mois, il y a une odeur chaleur horrible, tous les légumes sont en train de pourrir dans les champs, un garagiste a perdu toutes ses machines parce que les machines électriques qui servent pour réparer les voitures, et par contre dans le sud du pays, dans les Pyrénées-Orientales, les paysans ne vont même pas faire de semis parce qu'il n'y a pas une goutte d'eau. Et en Catalogne, on commence à rationner l'eau. Donc il faut être aveugle et sourd pour ne pas comprendre l'urgence climatique. Et ce que nous disent tous les climatologues, c'est qu'il faut stopper les nouveaux forages de pétrole. Même pas seulement les climatologues, même l'Agence internationale de l'énergie. Il y a 2 ans, il y a un rapport qui était à la une de tous les journaux et que tous on a cité, tous et toutes hier on a cité pendant la manif, qui disait même la plus haute autorité mondiale de l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie, a dit il y a 2 ans, il faut stopper immédiatement tous les nouveaux forages de pétrole. Bien sûr, on a encore besoin d'essence, tous ceux et celles qui ont des voitures, dans les usines, on a besoin de pétrole. Mais ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est qu'avec les forages existants, en Europe, en Afrique, en Amérique ou ailleurs, on a assez de pétrole pour les 20 ans qui viennent, on a assez de pétrole, on ne va pas gratter la terre pour trouver de la nourriture et se priver immédiatement de toutes les voitures. Mais l'AIE dit « on a assez de pétrole ». Et il faut investir vraiment dans les transports en commun, il faut investir dans les pistes cyclables, il faut investir dans la rénovation thermique et il faut développer les renouvelables. Donc c'est pas 3 rigolos dans leur coin qui ont pris un café ou qui ont bu un verre de vin rouge en trop. C'est la plus haute autorité mondiale de l'énergie qui dit il faut stopper tous les nouveaux forages. Et malgré ça, en Ouganda, c'est Total. En Ouganda ou au Yémen, c'est Total qui fait des forages catastrophiques. Je suis allé 9 jours en Ouganda avec d'autres députés. Ils veulent foutre en l'air le plus beau parc national, le plus beau parc national d'Ouganda. Churchill était tombé amoureux de cet endroit. Il y a des girafes, des lions, c'est d'une beauté incroyable. Et Churchill disait que c'était la perle de l'Afrique. Eh bien, Total veut faire des forages. Et après ça, un pipeline de 1400 kilomètres, un pipeline chauffé pour que le pétrole aille plus vite et qui ferait 34 millions de tonnes de CO2 chaque année. Et donc, ça, c'est en Ouganda. Ça se voit pour certains, ça, enfin, je veux dire, c'est un peu loin. Mais le CO2 qui soit émis en Ouganda ou à Bordeaux ou à Mérignac, c'est le même. Et donc là, c'est ahurissant, y compris que le gouvernement laisse faire. Emmanuel Macron, j'ai jamais été un proche de Macron, j'ai jamais voté pour lui au premier tour. Mais il y a 7 ans, il avait fait, quand il est arrivé au pouvoir, il avait fait le One Planet Summit. Et les premiers mots d'Emmanuel Macron, c'est on est en train de perdre la bataille. Les premiers mots d'Emmanuel Macron quand il ouvrait le One Planet Summit il y a 6 ans ou 7 ans, c'est « on est en train de perdre la bataille, on le sait ». Devant 80 chefs d'État, devant 3000 personnes, Macron reprenait. Il y a 30 ans, les dirigeants avaient une excuse, ils ne savaient pas, mais ils disaient « nous n'avons aucune excuse ». Macron, il y a 6 ans, dit « nous n'avons aucune excuse, nous savons ». Puis il a fait le Haut Conseil pour le Climat. J'étais un des 9 sages avant d'être député, j'étais membre du Haut Conseil pour le Climat. Et devant tout le monde, Macron me tutoyait et expliquait « Pierre, on a besoin de gens comme toi pour nous pousser à aller plus vite, plus loin ». Très bien, il y a eu la convention citoyenne. 150 citoyens tirés au sort qui ont travaillé comme des fous. Des week-ends de 3 jours, ils venaient travailler avec des climatologues sur l'urgence, puis les solutions très concrètes. Et Emmanuel Macron avait promis qu'il allait reprendre leurs propositions et il a repris 10%. Et là, quand il nous a demandé de voter pour lui pour qu'il soit réélu face à Madame Le Pen, et j'ai voté pour lui parce que je ne voulais pas de Le Pen, mais il nous a dit « mon deuxième mandat sera écologique ou ne sera pas ». Et il ne fait rien sur la rénovation thermique, il ne fait rien sur les transports en commun, et il laisse faire des nouveaux puits de pétrole. C'est juste, il n'y a pas de mot poli pour dire à quel point c'est inquiétant.
Donc un petit peu plus largement, là, sur les élections européennes qui vont se tenir donc du 6 au 9 juin, on voit que la jeunesse est souvent absente dans les urnes pour les élections européennes. Quel message vous adresseriez à la jeunesse pour la mobiliser pour ces élections européennes ?
D'abord, je comprends que beaucoup de gens soient déçus par la politique. Nous, si on a créé un nouveau parti, Nouvelle Donne, avec des amis, y compris de Bordeaux, Aline, Cyril et d'autres qui vivent à Bordeaux, c'est qu'on était déçus. On avait voté pour François Hollande et on voyait que François Hollande nous avait dit « mon adversaire, c'est la finance, on va tout changer au niveau européen, on va lutter contre le chômage », et puis il a rien fait de tout ça. Donc je comprends très bien que les gens soient en colère. Je comprends, moi, mes beaux-frères ne vont quasiment jamais voter parce qu'ils pensent que ce soit la droite ou la gauche, ils se foutent de nous, ils se goinfrent et ils se foutent de nous. Donc il y a de bonnes raisons d'être en colère, mais c'est pas forcément en étant en colère qu'on va changer le monde. Parce que ceux qui se goinfrent, et effectivement il y en a qui se goinfrent, eux ils sont très confortables, et c'est pas eux qui voient leur retraite diminuer, c'est pas eux qui voient leur champ de blé inondé ou foutu en l'air par la sécheresse, voilà. Donc être en colère ne suffit pas. Donc nous c'est pour ça qu'on a créé un nouveau parti, Nouvelle Donne, pour dire on n'est pas content avec le PS, on n'est pas content avec ce que faisait à l'époque Europe Écologie, mais ça veut pas dire qu'il faut déserter. Et pourquoi ça s'appelle Nouvelle Donne? C'est parce qu'on fait référence au New Deal. Quand Roosevelt arrive, je suis nul en histoire mais ça j'ai retenu, quand Roosevelt arrive après la crise de 29, il y avait des millions de pauvres, des millions de précaires, des paysans qui étaient ruinés, et en trois mois, Roosevelt fait passer 15 réformes, le New Deal, la Nouvelle Donne. Il fait la séparation des banques pour casser la spéculation, les banquiers sont furieux et gueulent contre Roosevelt en tant que c'est un communiste. Mais Roosevelt fait la séparation des banques, il fait des grandes réformes des banques, il améliore le revenu des paysans, il protège les forêts. 15 réformes en 3 mois qui ont redonné de l'espoir et qui ont changé la vie quotidienne à des millions de gens. Et donc ça veut dire que la politique n'est pas forcément décevante. Le monde a changé depuis 1933, évidemment. Mais il y a des gens qui disent que la politique, forcément, ils trahissent nos espoirs, ils se foutent de nous. Mais non, Roosevelt est la preuve qu'on peut tenir ses engagements, réussir. Et Roosevelt va être réélu 3 fois tant qu'il est vivant. Le peuple se dit, ce gars-là, c'est pas un magicien, il n'a pas tout réglé, mais il fait du bon job et sa boussole, c'est la justice sociale, c'est la dignité pour tous. Donc je comprends que les gens soient déçus, mais en même temps, si on veut changer les choses, concrètement, aujourd'hui, il y a des milliers de milliards qui ont été créés par la Banque centrale. Est-ce que cet argent colossal va sur les marchés financiers ou est-ce qu'on le va pour la rénovation thermique? On se bat au niveau du Parlement européen. Moi, je suis rapporteur général du budget. Le Parlement m'a donné une grosse responsabilité. Il y a 2 ans, c'est moi qui ai négocié tout le budget de l'Europe au nom du Parlement. Et j'ai proposé pour avoir plus d'argent pour le climat, pour la rénovation thermique, pour les transports en commun, pour les aides à l'agriculture. J'ai proposé avec d'autres qu'il y ait une petite taxe sur les marchés financiers. C'est très facile à comprendre. Tout le monde, vous et moi, quand on fait nos courses, on paye de la TVA. Quand j'ai acheté mon téléphone, j'ai payé 20% de TVA. Et l'autre jour, dans l'hémicycle à Bruxelles, j'ai montré une boîte de ravioli en disant même les gens qui dorment dans la rue, à Bordeaux, à Talence ou à Bruxelles, quand ils vont acheter de quoi manger, ils payent 5,5% de TVA. Donc même les plus pauvres, ils payent 5,5% de TVA. Mais aujourd'hui, les marchés financiers, c'est 0,0 la TVA. Donc le Parlement, une grande partie du Parlement, sauf l'extrême droite, demande une taxe sur la spéculation, mais il y a des lobbies qui bloquent. Et donc, pourquoi aller voter? C'est pour renforcer ceux qui veulent, à mes yeux, le bien commun. Et il y a des textes qui se jouent à une voix près. Donc, je comprends très bien ceux et celles qui sont déçus par l'action des politiques, mais d'abord, tous les politiques ne se valent pas. Il y a des politiques qui se battent pour le bien commun. Concrètement, moi, je suis allé en Ouganda, j'ai obtenu qu'il y a une résolution du Parlement qui a stoppé le pipeline de façon provisoire, mais au moins, ça a beaucoup embêté Total Energy. Ils n'arrivent plus à trouver des banquiers. Le fait que le Parlement européen ait voté contre ce pipeline catastrophique. On a obtenu une directive pour qu'il y ait un salaire minimum dans tous les pays. En France, ça change rien. Heureusement, il y avait un salaire minimum, mais il y a des pays où, heureusement, grâce à cette directive, on aura beaucoup moins de gens qui sont exploités au travail. On se bat pour une directive pour les travailleurs des plateformes, ceux et celles qui livrent des pizzas, quel que soit leur âge. Et la France est le seul pays qui bloque, mais on espère gagner. Et puis moi, si je suis encore député européen, comme d'autres, je pense qu'il faut vraiment lutter contre la précarité chez les jeunes. Je vois tous les jeunes qui sont à la soupe populaire ou qui doivent cumuler les petits boulots alors qu'ils devraient juste s'occuper de leurs études et s'occuper de leur vie perso. Quand on est entre 18 et 25 ans, on a plein de choses dans sa vie perso importantes et il faut se former. Et heureusement, il y a des pays où on a mis en place des solutions efficaces. Par exemple, au Danemark, tous les jeunes entre 18 et 25 ans reçoivent 840 euros par mois. 840 euros, eh ben c'est quand même assez cool quand on sait que quoi qu'on fasse, mais en 18 et 25 ans, on n'est pas obligé de courir après des petits boulots, on n'est pas obligé de choisir entre est-ce que je fais mes études, est-ce que je vais voir ma copine ou est-ce que je gagne ma vie. On a une allocation d'autonomie. Donc si c'est possible d'avoir ça au Danemark, pourquoi c'est pas possible dans tous les pays? Et donc, de même, un autre sujet est très important, les violences faites aux femmes. En Espagne, il y a eu une loi qui fait que dès qu'une femme a été battue ou se sent en danger, elle peut aller voir un policier qui a été formé pour l'accueillir, pour lui parler, pour l'écouter vraiment, prendre en compte ce qu'elle vit, immédiatement lui trouver un logement, qu'elle ne retourne pas avec l'homme qui la bat. Donc, est-ce que ce qui marche bien ici, au Danemark, pour lutter contre la précarité des jeunes, ici, en Espagne, pour lutter contre les violences faites aux femmes, ici, pour développer un modèle d'agriculture avec beaucoup moins de produits chimiques? Est-ce qu'on est capable d'avoir une Europe qui nous aide à accélérer sur tous ces sujets? Et ça dépend des élections. Et il y a de plus en plus de votes qui se font à une voix près. Il y a des clivages. Il y a 4 ans, tout le monde disait le climat, c'est une priorité. Maintenant, beaucoup de gens disent le climat, c'est pas tellement une priorité. Laissez-nous respirer. Ils n'ont rien compris, les pauvres. Et il y a de plus en plus de voix de votes, des règles importantes qui se jouent à une voix près. Donc peut-être que vous avez des raisons d'être déçus, mais allez voter le 9 juin. En France, les élections sont le 9 juin. Pour des gens qui mettent au cœur la question sociale, la question de la justice sociale, de la démocratie, du climat, des nouvelles relations avec des pays du Sud. Peut-être que si vous allez voter, si vous êtes 10 ou 15 de plus sur Bordeaux, allez voter pour des gens qui portent ces valeurs, ça peut changer les prochaines règles pendant 5 ans.
L'Europe considère actuellement l'immigration clandestine contre quelque chose contre lequel il faudrait lutter. Mais au vu de l'histoire coloniale et productiviste de notre continent, est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer plutôt un système de pollueur-payeur et accueillir notamment les réfugiés climatiques ou tout autre en guise de réparation?
Honnêtement, c'est vraiment choquant de voir tous ceux et celles qui traversent la Méditerranée qui savent qu'ils risquent de se noyer. Ils ne sont pas débiles. Ils savent qu'en moyenne, il y a une chance sur 7 de ne pas finir la traversée. Et donc, s'ils prennent ce risque, c'est vraiment qu'ils vivent dans un pays où ça devient invivable. Soit parce qu'ils sont persécutés, soit parce qu'ils ont essayé, ils veulent vivre mieux. Ils ont traversé des pays où ils ont été violés ou mis en situation proche de l'esclavage. Et c'est indigne, la réaction de l'Europe. C'est indigne qu'on ne soit pas capable de l'accueillir de façon plus fraternelle. Je suis plus vieux que vous. Moi, je me souviens à l'époque des Boat People. Eh bien, on avait accueilli 150 000 réfugiés en France en quelques semaines. Nous, chez nous, papa travaillait à EDF, on avait une bonne maison, on habitait à Toulouse, on avait accueilli 3 jeunes qui étaient réfugiés, 3 jeunes qui avaient perdu leurs parents, et on avait pendant 1 an et demi ou 2 ans, ça se passait très bien. Je me souviens, Catherine et ses 2 frères habitaient dans notre famille, avec notre famille, et au total, la France a accueilli 150 000 personnes. Donc c'est quand même choquant, on est 40 ans plus tard, on n'a jamais été aussi riche de ne pas accueillir de façon fraternelle et non violente des gens qui ont quitté leur pays. Donc je crois, comme l'a dit le pape à Marseille, qui en même temps le droit à être accueilli et le droit de vivre dans son pays. Ce qui veut dire aussi qu'il faut, quand vous parlez d'une dette, on a une énorme dette vis-à-vis des pays du Sud. Je suis allé 3 fois en Afrique, moi, depuis que je suis député. Je prends jamais l'avion dans ma vie perso, mais quand je vais inviter par des Africains et des Africaines à travailler, et j'ai vu la pauvreté, pas partout, mais encore à Bamako ou ailleurs, une pauvreté monstrueuse, le besoin d'avoir un investissement dans l'énergie. Jean-Louis Borloo, il y a 10 ans, avait un grand projet pour permettre l'accès à l'électricité en disant la plupart des gens aimeraient bien rester dans leur pays. Ils ont des amis, des gens qu'ils aiment, disons, c'est pas de gaieté de cœur qu'on quitte son village ou sa ville. Souvent, d'abord, on va dans les bidonvilles de la capitale la plus proche, et puis après ça, on se dit, j'essaye de traverser pour aller en Europe. Et donc, est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir un développement économique de l'Afrique sans pétrole et sans gaz? Et donc, Borloo, c'est pas ma famille politique, mais je respecte tout à fait son travail, et propose un grand plan d'investissement pour que 80% des Africains et Africaines aient accès à l'électricité. Et il y a tout ce qu'il faut comme ressources. Ici, c'est le photovoltaïque, ici, c'est l'hydraulique, il y a plein de cerveaux bien fait en Afrique aussi, mais il y a un besoin de capital, d'investissement. Et c'est nul, pour être poli, puisqu'on est enregistré, c'est nul qu'on, l'Europe ne soit pas capable de mettre de l'argent pour aider l'Afrique dans son développement économique. C'est nul aussi, donc je suis allé en Ouganda avec d'autres députés, et je fais voter une résolution pour stopper le pipeline ICOP. C'est une honte, c'est M. Pouyanné qui a convaincu, c'est Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui a convaincu le dictateur ougandais de faire ce projet. Au début, ce n'était pas le projet du dictateur. C'est Pouyanné qui l'a convaincu pour faire de l'argent pour les actionnaires de Total. Mais nous, donc, j'ai fait voter une résolution par le Parlement, et depuis, j'ai encore gardé le contact avec des dirigeants ougandais, et je leur dis, si vous acceptez que le pétrole reste dans le sol, on peut compenser, parce que Pouyanné leur a promis, le patron Total leur a dit, si vous nous laissez faire des trous dans votre parc national, si vous nous laissez exploiter le pétrole, on va vous donner 0,5 milliard chaque année. Et l'Ouganda a besoin d'argent. Parce qu'aujourd'hui, leur système d'éducation est payant. Et donc, du coup, il y a plein d'enfants qui ne vont pas à l'école, en particulier des filles. Et donc, là, le système d'éducation est payant. Il faudrait mettre en place de l'irrigation. Avec les Chinois, ils font des grands barrages hydroélectriques. Donc, ils auront bientôt de l'électricité, mais ils n'ont pas les réseaux pour les faire arriver. Et ils veulent que les réseaux soient publics pour pas que ce soit trop cher. Donc, encore une fois, le dictateur ougandais, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est lui qui est le patron de l'Ouganda. Et quand Pouyanné lui dit, si vous laissez faire si on exploite votre pétrole, vous aurez de l'argent, est-ce que nous, on est capable de dire, au nom, pour lutter contre le dérèglement climatique, on vous demande de laisser le pétrole dans le sol, mais on a compris que vous avez besoin d'argent pour l'éducation, pour l'accès à la santé, pour l'électricité. Et donc l'Europe devrait être assez riche pour donner 0,5 milliard chaque année à l'Ouganda si elle renonce à son pétrole. Donc pour toutes ces raisons, la question de l'immigration est vraiment scandaleuse. On verse des larmes de crocodile, mais c'est une honte. On devrait beaucoup mieux accueillir ceux et celles qui veulent venir, beaucoup mieux les intégrer. Tout à l'heure, j'étais dans un centre social où on fait du français langue étrangère pour 250 adultes qui ne sont pas nés en France, mais qui veulent apprendre le français. Et hélas, ce centre social voit qu'il a de moins en moins d'argent et il se demande est-ce qu'il va être capable de continuer à faire cette action d'alphabétisation qui est très utile. Et est-ce qu'on se donne les moyens que l'Afrique ait un développement économique sans passer par la case pétrole?
Alors, depuis plusieurs années, l'Union européenne travaille sur un pacte vert qui contient une 50aine de lois avec comme objectif la neutralité carbone d'ici 2050 à l'échelle européenne. Où est-ce que ça en est, ce projet?
Alors, on peut dire que quand même, grâce au mouvement social, le climat est devenu une priorité. Votre première question, c'est si je suis venu à Bordeaux, c'est parce qu'il y avait une grosse manif dimanche contre les puits de pétrole, où il y avait Greta Thunberg, il y avait Camille Etienne, il y avait Christophe Cassou, il y avait plein de gens bien, des politiques aussi, de Marie Toussaint, Pierre Urmic et d'autres. Donc, le mouvement social, parfois certains se demandent, mais est-ce que c'est utile? La réponse est oui. Évidemment, au niveau européen, il n'y a aucun doute que s'il n'y avait pas eu les jeunes dans la rue toutes les semaines en Belgique ou tous les mois en France, sans doute Mme Van der Leyen, qui est la présidente de la Commission, n'en aurait pas fait une priorité. Et il y a 4 ans, c'était une priorité qui était assez partagée, lutter contre le réchauffement climatique à cause des sécheresses, à cause des inondations, et faire baisser le CO2. On a fait des progrès quand on pose des règles, en disant par exemple qu'il ne faudra plus aucune nouvelle voiture avec un moteur thermique à partir de 2035. On a fait des progrès, mais on voit qu'on a fait qu'une partie du chemin et qu'en particulier, il n'y a pas les financements. Parce que dire aux gens, vous n'aurez plus le droit d'avoir de nouvelles voitures thermiques, celles qui polluent beaucoup, si en même temps, soit on n'a pas fait des transports en commun efficaces, soit on a fait et les transports en commun et aussi des voitures électriques pas chères et plus petites, parce qu'on n'a pas besoin de gros monstres qui font 1,5 tonne ou 2 tonnes. Donc il y a un besoin d'investissement massif dans les transports en commun, dans les pistes cyclables, et là où il n'y aura pas de transports en commun, dans des petites voitures moins chères qui sont autonomes et qui sont électriques. Et si on ne met pas ces financements, je pense que ça va gueuler et qu'au dernier moment, on va repousser. Donc, de même, est-ce qu'on fait un effort sur la rénovation thermique? Le Parlement européen se bat pour qu'il y ait des aides, pour que vous, moi, partout où on habite, on ait des aides pour faire de la rénovation thermique, on ait des aides pour l'agriculture. Les agriculteurs ne sont pas débiles, hein. L'autre jour, je suis allé à la rencontre des agriculteurs qui sont venus à Bruxelles. Pendant 3 quarts d'heure, spontanément, leur revendication, c'était juste, on veut un revenu correct, on veut un revenu correct, on veut un revenu correct. Et puis, une de vos collègues de El País a dit, et le plan climat, vous n'avez pas parlé du plan climat? Ben oui, ils n'avaient pas parlé du plan climat. Et ils ont dit, la réponse du chef des syndicats des agriculteurs, pas la FNSEA, hein, pas la FNSEA, mais les syndicats des vrais agriculteurs, des petits agriculteurs, sa réponse était limpide. On n'a rien contre le plan climat. On n'a rien contre le plan climat. Nous sommes les premières victimes du réchauffement climatique, mais on ne peut pas nous demander de tout payer, de payer nous-mêmes la transformation. Donc les agriculteurs étaient très clairs. Autant ils veulent un vrai revenu, ils en ont marre de vivre des subventions, de mendier des subventions avec des dossiers super compliqués, technocratiques, et les subventions, pour certains, n'arrivent même pas, ils n'arrivent même pas à en vivre. Je ne parle pas des gros céréaliers, mais de ceux qui ont 50 hectares. Donc autant ils veulent un vrai revenu sans avoir besoin de subventions, autant, par contre, pour faire face au dérèglement climatique, ils ont besoin de subventions, mais comme tout le monde. Dans quelques jours, là, à Bruxelles, je vais recevoir le patron de la SNCF, M. Farandou, qui dit qu'il faut mettre 100 milliards sur les transports en commun, et il a raison. Et aussi bien la Fondation Abbé Pierre que les gens du logement disent qu'il faut des aides à la rénovation. Donc ce serait tout à fait normal. Donc on a fait des avancées sur la question du climat, on a fait quelques petites avancées, mais vraiment pas assez sur les pesticides, mais il y a besoin d'un accompagnement. Un agriculteur, ils sont pas débiles, je le répète, ils voient leurs copains qui ont un cancer, et ils se disent quand même qu'il y en a beaucoup de cancers dans la région et que ça a peut-être un lien avec les pesticides. On a vu quand même des études sérieuses, ben oui, ils sont pas débiles, ils ont pas envie d'avoir un cancer, mais est-ce qu'on les aide à changer leurs pratiques? Stopper les intrants chimiques, il faut 3 ou 4 ans avant que la terre retrouve sa fécondité. Si vous arrêtez complètement les engrais, c'est tout à fait possible d'avoir une bonne fécondité de votre terre, mais il faut mettre des plantes qui vont fixer l'azote, des légumineuses et autres qui vont enrichir le sol, il faut laisser les vers de terre revenir, et c'est possible. Il y a plein d'agriculteurs dans tous les types de production qui ont changé leurs pratiques, soit pour baisser très fortement les pesticides et les produits chimiques, soit pour en sortir, mais ils ont besoin pendant 3 ou 4 ans qu'il y ait des aides financières. Et aujourd'hui en France, le problème c'est que les aides, tous les 6 mois ça change, parce que le ministre des Finances s'en fout, qui veut faire des économies, et c'est décourageant parce qu'il y a besoin. Aucun agriculteur ne peut se lancer dans une telle transformation s'il n'a pas une sécurité pour sa famille et pour lui-même, et qu'il sache que pendant 3 ans, on va l'aider. Et après ça, il n'aura pas besoin d'aide. Il aura retrouvé un nouvel équilibre dans son exploitation.
Alors justement, concernant les pesticides, récemment, la Commission européenne a abandonné un texte qui ambitionnait de réduire de moitié l'utilisation et les risques liés aux pesticides d'ici 2030. Comment vous analysez cet abandon ?
Je trouve que c'est scandaleux, parce que la demande, je suis le seul élu qui est allé à la conférence de presse, les agriculteurs, quand ils sont venus, les agriculteurs en colère sont venus il y a maintenant 3 semaines à Bruxelles, et je m'étais mis au fond de la salle pour écouter tout discrètement, et leur demande principale était essentiellement sur le revenu, le revenu, le revenu. Voilà. À aucun moment, ils n'ont dit qu'il fallait stopper le plan climat ou stopper les plans pesticides. Et même sur une chaîne de télé, il y avait un témoignage juste avant que je parle d'un agriculteur, pourtant de la FNSEA, donc pas le chef de la FNSEA, mais un autre, qui disait, si on avait un bon prix pour nos produits, on pourrait respecter les règles environnementales. Si on avait un bon prix pour nos produits, on pourrait avoir plus de jeunes qui s'installent et qui reprennent la ferme. Si on avait un bon prix pour nos produits, on pourrait embaucher des salariés, travailler moins et avoir un nouvel équilibre. C'est quelque chose qui est très important et qui est très nouveau chez les agriculteurs. Il y a 50 ans, monsieur et madame étaient agriculteurs, étaient prêts à sacrifier leur vie pour le boulot, pour les vaches, pour l'exploitation. Mais aujourd'hui, de plus en plus souvent, le conjoint ou la femme n'est pas agricultrice et a envie. Elle a aussi des week-ends, elle a un autre job. Ils sont très heureux ensemble, mais souvent, ils ne vivent plus dans la ferme même, ou alors même s'ils vivent dans la ferme, madame, souvent, elle a un boulot, elle a un week-end, elle aimerait profiter du week-end, elle aimerait avoir des congés. Et du coup, il y a une aspiration au bien-être. Il y a plusieurs agriculteurs, j'ai passé des heures à les écouter,
écouter et à dialoguer à Bruxelles. Et il y en a plein qui disent, on aimerait un autre équilibre de vie. Il n'y a pas que la ferme dans la vie. Voilà. Il y en a un qui disait, j'ai un Samuel qui a 30 ans, qui me disait, j'ai honte de dire que je suis agriculteur. J'ai honte de dire parce que je ne vis que des subventions. Les gens se disent, ouais, il a 30 000 euros de subventions, mais ça couvre à peine mes frais. Ça couvre à peine mes frais. Et il dit, il y a des moments, je dois choisir entre, il y a une vache qui va mourir. Est-ce que je m'occupe de la vache qui va mourir ou de ma femme? C'est quand même des, voilà. Et donc, ces gens-là ont juste envie de vivre dignement comme vous et moi. Ils ont envie de ne pas travailler 90 heures par semaine et d'être en burn-out ou, voilà. Donc, il y a une, mais c'est la même, on ne reconnaît pas aujourd'hui, je trouve que ceux qui nous dirigent ont complètement oublié les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, que ce soit pour les agriculteurs, pour les gens au RSA. La semaine dernière à Strasbourg, j'ai retrouvé une copine qui vit avec le RSA depuis 10 ans et c'est la honte. Toujours 5 millions, je viens de vérifier les chiffres de Pôle emploi, France Travail. Il y a toujours plus de 5 millions d'inscrits à Pôle emploi. 3 millions de gens qui sont complètement au chômage, qui font 0 heure par semaine. Mais 5 millions, si on tient compte des gens qui ont un petit boulot, mais qui aimeraient avoir un vrai boulot pour gagner mieux leur vie. Et 1 500 000 qui sont au RSA, qui sont plus comptés comme chômeurs. Et on est en train de précariser. On n'est plus capable de créer des emplois de bonne qualité, mais on est en train de précariser les gens au RSA pour leur dire, si vous acceptez pas un boulot, on vous coupe les vivres. C'est une honte. C'est une honte. Il n'y a jamais autant d'argent sur les marchés financiers. Le nombre de milliardaires a triplé en 15 ans. C'est pas du gauchisme que de dire ça. Le nombre de milliardaires a triplé. On n'est pas capable de mettre en place une taxe sur la spéculation. On peut pas mettre en place une taxe sur les milliardaires. Et on va demander un effort au RSA. Cette dame de Strasbourg, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, 12 ans, j'ai fait sa connaissance, elle avait un appartement. Et déjà, ça m'avait frappé. Elle m'expliquait qu'elle m'avait dit, tu sais, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sonne, j'ai la trouille. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sonne, j'ai peur que ce soit un huissier parce que j'ai des trucs en retard. Donc déjà, il y a 10 ans, elle vivait dans la, ou 12 ans, elle vivait dans la peur. Il y a une fois, ça m'avait frappé aussi. On prenait un café. Je lui dis, est-ce que tu veux, Isabelle, qu'on prenne un café? Et on voyait qu'elle se demandait qui c'est qui va payer. Alors que pour vous et moi, un café à 1 euro, 1 euro 50, on s'en fout, on prend un café et puis l'un de nous deux paye. Mais pour cette dame au RSA, savoir qui va payer le café, c'est un trouble. Et là, elle a même plus son appart perso, elle vit chez son fils, 2 mois chez son fils, 2 mois chez sa fille, c'est humiliant. Donc on est dans des pays qui n'ont jamais été aussi riches, on n'a jamais eu autant de gains de productivité, c'est aussi pour ça qu'on va relancer le débat sur la semaine de 4 jours, parce qu'on produit beaucoup plus avec les machines, avec les robots, avec l'intelligence qu'on a mis dans la tête des gens, on produit beaucoup plus avec moins de travail, et ça devrait être une bonne nouvelle. On devrait tous travailler moins. Vous avez vu en Espagne, en Allemagne, on relance le débat sur la semaine de 4 jours, mais il n'y a qu'en France qu'on nous dit qu'il faut travailler plus. On est dirigé par des gens qui ont dans la tête, certains sont jeunes pour l'état civil, mais ils n'ont que du vieux dans la tête. Ils n'ont rien compris à ce qu'on vit depuis 40 ans.
Donc concernant les élections européennes qui arrivent au mois du juin, on a quand même l'impression d'une gauche assez divisée. Pourquoi tout le monde part divisé comme ça pour les élections européennes, et comment est-ce qu'on arrive à rassembler les partis ?
Avec les copains et les copines de Nouvelle-Donne, on regrette beaucoup cette division. On a tout fait déjà au moment des présidentielles. On s'est engagé pour la primaire populaire. Et avec un groupe de jeunes engagés pour le climat, j'ai fait une grève de la faim pour dire, mais arrêtez vos bêtises. S'il y a 5 candidats qui disent, ma priorité, c'est la justice sociale, ma priorité, c'est le climat. Il y a quelques différences entre nous, mais franchement, si on continue ces conneries, on va laisser le pouvoir à Emmanuel Macron. Et lui, il ne fera rien sur le climat. Lui, il ne fera rien pour un renouveau démocratique. Lui, il ne fera rien contre la précarité ou sur les questions de logement. Et c'était gros comme une maison. Et c'était une évidence. Mais chacun dit, mais non Pierre, les sondages se trompent, je vais gagner, viens derrière moi, je vais gagner. Tous étaient persuadés que celui qui a fait 16%, celui qui en a fait 4,5%, celle qui en a fait 1,6%, ils pensaient tous que tout seul ils allaient gagner. Donc juste, est-ce qu'on a compris l'urgence? Est-ce qu'on est capable d'avoir un peu de modestie? Si on a compris l'urgence, c'est dramatique d'avoir laissé Macron pendant 5 ans, et ce serait encore pire si on a Le Pen ou Édouard Philippe. Donc c'est dramatique, et un peu de modestie, c'est dire... Je suis peut-être pas débile, je suis un cerveau qui marche, j'ai quelques idées intéressantes, mais celui qui est à côté, celle qui est en face, n'est pas débile non plus, on peut faire une équipe. Au rugby, personne, même les meilleurs ne se disent pas qu'ils vont gagner un match tout seul. L'autre jour, j'ai vu un article, la phrase qui était repérée en gros, c'est « il n'y a pas de joueurs de rugby, il n'y a que des équipes de rugby ». Alors bien sûr, il y en a un qui nous épouse, on le trouve génial, voilà, mais il a conscience que tout seul, il ne peut rien faire. Donc être en politique, on est capable de comprendre que c'est un sport collectif et qu'il faut qu'on fasse une équipe. Et j'espère que pour éviter la catastrophe dans 4 ans, on sera capable de faire une équipe. Et là, pour les européennes, je ne comprends pas. Je l'ai encore dit dans la manif, j'étais à côté de Marie Toussaint et à côté d'autres familles politiques. Je ne comprends pas pourquoi on fait des listes séparées. Parce qu'honnêtement, si vous regardez, quand je vais en Ouganda, pour lutter contre le pipeline total, je propose à Marie Toussaint et Yannick Jadot de venir. Quand vous regardez nos votes, je pense qu'à 98%, 98%, comme on dit à Bruxelles, je pense qu'à 98%, on vote pareil. On est, quand je dis à Marie Toussaint que je vais sortir un petit liste sur la semaine de 4 jours, elle me dit que c'est super, parce qu'il voudrait aussi se militer pour la semaine de 4 jours. Donc honnêtement, je ne comprends pas du tout. Autant peut-être qu'avec Mélenchon, on a des différences sur les questions internationales, c'est vrai, peut-être qu'on a des différences sur certains sujets, mais avec entre les socialistes, les gens de Nouvelle Donne, les gens de d'Europe Écologie, je vois aucune différence. Donc c'est pour être honnête, c'est des questions de boutique. Europe Écologie pense que les Européennes, c'est leur élection, qui une fois Cohn-Bendit a fait 17, et donc ils pensent qu'ils vont faire 17%. J'en suis pas sûr, et je trouve que ça aurait de la gueule. Là, j'ai vu plein de jeunes hier dans la manif, à dimanche, qui étaient en même temps contents de faire la bise à Marie Toussaint, qui venaient me dire que c'était super ce que je faisais. Et si on est sur deux listes différentes, ils vont se dire, mais mince, pourquoi ils sont pas sur la même liste? Ils ont les mêmes idées.
Par rapport à tout ça, il peut y avoir un sentiment de désespérance un petit peu. Quel message vous adresseriez à celles et ceux qui sont touchés par cette désespérance ?
Qu'il ne faut pas désespérer. Moi, dans mon bureau, il y a de quoi se flinguer. Honnêtement, on est dirigé par des... Je ne vais pas être vulgaire, mais l'autre jour, j'ai déjeuné avec un grand, grand diplomate, un monsieur qui a 20 ans de plus que moi, qui est un de ceux qui a négocié les accords d'Oslo pour faire la paix entre Israël et Palestine en 91-93. Voilà. Il avait le moral à zéro. On a dîné ensemble. Et trois fois pendant le dîner, il m'a dit « On est dirigé par des connards ». Tu sais, Pierre, on est dirigé par des connards. Pourtant, c'est un monsieur poli, un grand. Il me dit ce qu'il faut faire pour faire la paix entre Israël et la Palestine. Mais déjà, on le savait en 93. En 99, il m'a dit, je t'enverrai le texte qui a été signé par tous les chefs d'État européens en mars 99. On dit à Israël, maintenant, on arrête les bêtises. Dans un an, en 2000, vous aurez fait la paix entre Israël et Palestine. Voilà. Et puis, on les a laissés faire et on a laissé des extrémistes prendre le pouvoir. Il dit, sur la question du climat, ce que tu proposes avec Jean Jouzel, c'est une évidence et on le fait pas. Ce que tu dis sur la semaine de 4 jours, c'est évident qu'il faut travailler moins. Ou si on en... Voilà. Il me dit, on est dirigé par des connards. Donc oui, il y a de quoi être en colère. Mais déjà, je suis nul en littérature, mais dans le Hamlet, la grande tirade « to be or not to be », une des raisons qui fait que Hamlet a envie de se flinguer, c'est déjà l'inertie des politiques, le cynisme des politiques. Donc déjà, à l'époque de Hamlet, on voyait des politiques qui sont tout contents, qui se trouvent beaux quand ils se regardent dans le miroir, ils sont bien habillés, ils gèrent leur carrière, ils gèrent leur petite cour et ils s'occupent pas du bien commun. Donc hélas, voilà. Et si on est complètement écœuré, si on baisse les bras, on va laisser la place à des cyniques, ce sera pas mieux. Et donc il faut garder l'espoir. J'ai eu la chance de travailler très longtemps avec Stéphane Hessel, celui qui a fait le livre « Indignez-vous ». C'est magique, magnifique. Et encore 3 jours avant sa mort, quelques jours, il m'a dit « Pierre, viens me voir ». Il était dans son lit, on a fait le bilan de sa vie. Et il me dit « Il faut lutter contre le désespoir. Il faut vraiment lutter contre le découragement. Beaucoup de gens pensent qu'on est dans un système qui va dans le chaos et qu'on n'arrivera pas à éviter le chaos. Mais il faut dire, on a connu des systèmes monstrueux qu'on croyait immuable, et on a réussi à les mettre par terre. On a connu l'apartheid en Afrique du Sud, quand même Mandela, il a fait quoi, 27 ans de prison, les Noirs étaient traités de façon scandaleuse, mais on a fait tomber l'apartheid. On a connu le mur de Berlin, vous, ça vous dit rien, vous êtes plus jeune que moi, mais moi c'est mon dernier cours d'histoire quand j'étais à Sciences Po. En 89, en avril 89, le plus grand spécialiste de l'Allemagne nous a dit qu'on ne verrait jamais la fin du mur de Berlin. C'était le meilleur spécialiste de l'Allemagne, il nous a dit que le mur de Berlin resterait là tout le temps, et 5 mois plus tard, le mur de Berlin est tombé, mais c'est pas les grands chefs, c'est pas Gorbatchev, c'est pas Helmut Kohl, c'est pas Mitterrand qui ont fait le job. Ce sont des gens comme vous et moi. On voit des jeunes et des vieux. C'est des gens qui en avaient marre, qui juste voulaient être heureux. Et juste, ils se disent, je n'ai qu'une vie, j'ai envie d'être heureux ou heureuse, et ce mur de Berlin fout en l'air ma liberté, fout en l'air ma vie. Et donc, ils sont sortis. Au début, ils étaient 30, ils étaient 3000, ils étaient 30 000, et ils ont fait tomber le mur de Berlin, alors que 2 mois avant, tout était calme. Et donc, c'est des gens comme vous et moi qui avaient envie d'être heureux, qui ont fait tomber un système politique qui foutait en l'air leur liberté et leur joie de vivre. Donc, je crois aujourd'hui qu'on est nombreux à se dire que ce système économique qui fait de plus en plus de précaires, ce système économique qui fout en l'air la planète, même le pape François, on a été reçu par le pape avec Cyril Dion il y a 3 ans, et même le pape nous dit qu'il faut faire la révolution. Dans son dernier bouquin, le pape dit qu'un système économique qui fout en l'air la biodiversité, qui fout en l'air le climat, qui fait des millions de gens, comme il est poli, il est le pape, hein. Donc il dit pas que c'est de la merde, mais il dit que c'est le fumier du diable. Si vous lisez le dernier bouquin du pape, il dit ce système économique, c'est le fumier du diable. Ça veut dire que ça sent pas bon, voilà. Et le pape dit, après la crise financière de 2008, on avait dit qu'on allait tout changer. En fait, on n'a rien changé. Donc le pape dit qu'il faut une révolution. Donc c'est peut-être pas le pape, quelle que soit sa sagesse, mais je crois qu'il a 80 ou 85 ans. Donc c'est peut-être pas le pape, mais peut-être qu'à nous, au nom de, parce qu'on n'a qu'une vie, parce qu'on a envie d'être heureux, parce que moi j'en peux plus de voir des gens dans la rue, j'en peux plus de voir des gosses dont l'intelligence n'est pas allumée, j'en peux plus de voir des gens qui sont dans un logement social et qui ont froid l'hiver et qui ont chaud l'été et qui n'arrivent pas à payer leurs factures. On a tout pour être dans un pays heureux, on a tout pour être dans un pays de cocagne, on n'a jamais été aussi riche financièrement, humainement, et donc il faut qu'on arrive à reprendre le pouvoir. Et donc les élections européennes peuvent être un moment quand même de choix. Vous pouvez aussi vous engager, par exemple, pour la taxe sur la spéculation, on a créé un réseau avec toutes les sensibilités politiques, des syndicats, des 22 organisations qui disent qu'il faut taxer la spéculation. Vous allez sur le site taxonslaspéculation.com, parce qu'il y a les élections qui sont un moment important, mais on peut aussi gagner des batailles. Là, je pense qu'on peut stopper les nouveaux forages de pétrole à bord Bordeaux. Je pense que le préfet a vu qu'on était très nombreux et je vais encore faire un courrier au préfet pour dire qu'il prend un risque même pour lui juridiquement s'il accepte ces nouveaux pétrole. Donc je pense qu'il faut qu'on ait des victoires d'étape. D'abord, si on veut ne pas désespérer, il ne faut pas rester seul dans son coin. Première chose, si on reste chacun et chacune dans son coin, il y a de quoi se flinguer. Quand on voit les informations, toutes les semaines, il y a une nouvelle catastrophe et tout seul, y compris moi, le matin quand je me réveille, je suis un tout petit bonhomme face à l'immensité des crises. Donc ne pas rester seul, aller dans un mouvement. Et ça fait, hier, c'était sympa de voir qu'on était des milliers à la manif et que ça fait du bien d'être dans un collectif. On ne peut pas être sur tous les combats, mais il faut rentrer dans un collectif. Ici, si votre centre d'intérêt, c'est lutter contre les violences faites aux femmes, allez dans une association là-dessus. Si vous voulez faire de la lutte contre l'échec scolaire, engagez-vous. Si vous voulez faire de l'aide au logement, ce matin, j'ai vu un copain qui fait de l'aide au logement pour que les gens ne dorment pas dans la rue, dans la région de Bordeaux. Donc, je pense que c'est important de... On ne peut pas être sur tous les sujets, mais de rentrer dans un collectif et puis de militer en politique pour éviter que dans 3 ans et demi, ce soit encore les concours d'égo et que chacun et chacune, qu'on ait 8 candidats à gauche, il faut qu'on arrive à se rassembler, à faire une équipe.
C'était Pierre Larouturou au micro de La Clé des Ondes, député européen Nouvelle-Donne. Midi 54 sur La Clé des Ondes, on passe à la dernière partie de notre émission avec la chronique écho réalisée par David.
Bonjour Léa, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, je suis très content de vous retrouver à l'antenne et de retrouver les auditeurs et les auditrices de La Clé des Ondes pour ma première chronique de l'année. Je voudrais parler d'un sujet qui est victime d'une forte dissociation entre les perceptions et la réalité. Parlons immigration. Sujet à fortiori sensible, l'immigration, comme un phénomène étendu, semble incontestablement ancré dans l'imaginaire collectif, mais peut-être qu'encore une fois, la perception des personnes n'est pas basée sur des faits, mais sur des perceptions incorrectes. Et si on s'attardait sur ce sujet sensible ? La loi immigration a été sujet de nombreuses controverses et manifestations depuis qu'elle a été votée au Parlement le 19 décembre 2023. Les dispositifs, comme cette loi, ou même les propos qui sont tenus par certains partis nationalistes, souhaitent dissuader, voire contraindre l'immigration. Ceux qui sont en faveur des dispositifs anti-immigration doivent certainement croire que l'immigration a des effets néfastes sur les conditions économiques du pays, comme par exemple sur le salaire des natifs. Peut-être c'est encore plus simple que ça. Et si on croyait tout simplement que l'immigration impliquait une explosion de la criminalité dans un pays, il serait dans ce cas presque naturel de la craindre et donc forcément, il serait souhaitable de la contraindre. Je souhaite donc vérifier si ces peurs de la migration sont fondées ou bien s'ils sont imaginaires. Tout d'abord, comment est-ce que l'arrivée des migrants affecte les salaires des natifs ? Un nombre de super chercheurs au CEPI ont exploré ces questions en détail. La théorie économique classique dit que, dans le cas d'emplois substituables, l'arrivée de migrants peut avoir un effet négatif sur les salaires des natifs à court terme. En revanche, la théorie dit aussi qu'à long terme, cet effet doit se dissiper. Mais bon, ne restons pas trop penchés sur la théorie classique. Empiriquement, le chercheur Edo du CEPI illustre comment, grâce au salaire minimum, ou bien à d'autres mesures de protection sociale bien répandues en France, l'effet de congestion sur le marché du travail est amoindri. De plus, ce n'est pas un jeu binaire à somme nulle, où l'un gagne et l'autre perd. L'arrivée de nouvelles personnes peut accroître la consommation, créant à son tour de nouveaux emplois et donc pouvant augmenter le niveau de vie des travailleurs. Plutôt chouette, non ? L'IFOP a enquêté que 71% des Français seraient totalement d'accord avec la question que l'immigration permet au patronat de réduire les salaires. Or, on a bel et bien vu qu'il faut bien s'informer et s'émanciper des idées fausses et démodées. Ensuite, deuxième grande question. Est-ce que l'arrivée des migrants provoque une hausse de la criminalité ? Marie Epinotti 2024 condense énormément d'études qui confirment l'absence d'un effet de l'immigration sur la criminalité. J'insiste sur ce point. Après, certains d'entre vous retorqueront peut-être « Mais David, n'est-il pas vrai que les immigrés sont surreprésentés dans les prisons ?» Eh bien, je vous réponds que oui, mais que ces auteurs nous donnent même des pistes d'explication sur l'actuelle surreprésentation des immigrants en prison. La première raison est qu'il y a peut-être une discrimination envers les migrants par la police et ou par les autorités judiciaires. Étonnant, qui l'eût cru. Ils disent tout de même que peut-être cela est dû aussi au fait que les immigrants substitueraient
des natifs dans certaines activités illicites, ou bien que peut-être la part des migrants est trop faible pour détecter des effets sur le changement de taux de criminalité. Tout cela étant dit, les migrants continuent de faire peur. Heureusement, il s'agit donc d'une peur qui n'est pas vraiment fondée sur des faits. La peur des migrants semble façonnée et affectée par la couverture biaisée des médias. Un article par Schneider et Valette, eux aussi membres du CEPI, montre comment même des Français qui étaient initialement qui avaient des attitudes modestes envers l'immigration peuvent se polariser suite à l'exposition à une grande quantité de couverture médiatique qui peut même ravivre des préjudices préexistants. Ainsi, des décalages et des biais inculqués existent vraiment partout. Des statistiques révèlent que la France fait partie des pays européens à plus avoir l'impression de recevoir un grand nombre d'immigrants. Spoiler, en réalité, elle est tout en bas du classement per capita des pays en étant un de ceux qui reçoivent le moins. On en conclut que des préjugés non basés sur la réalité peuvent déclencher un cercle de xénophobie. Non seulement la migration n'affecte pas vraiment les salaires des natifs à long terme, elle n'augmente pas le taux de criminalité d'un pays, mais en plus de cela, elle peut avoir des effets positifs sur la société. Et oui, je ne parle pas seulement des effets positifs humanitaires ou sur la culture, mais bien aussi des effets positifs sur l'économie du pays qui va les recevoir.